Eh bien, ce matin, je vais vous parler, vous raconter une histoire que vous connaissez tous, c'est l'histoire de Ruth. Et dans ce texte, je me suis retrouvé dans les personnages de cette histoire. C'est un peu ma vie aussi, c'est peut-être la vôtre, peut-être que vous allez vous retrouver dans un texte que nous connaissons par cœur, mais combien il est riche, ce texte que nous allons lire ce matin, c'est le chapitre premier du livre de Ruth. Nous allons lire tout le chapitre pour que nous puissions bien comprendre. Bien sûr, vous le connaissez par cœur, mais il est bon de se renouveler à nouveau les paroles que nous allons lire ce matin. Donc, Ruth, chapitre premier. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlom et Kiljom. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans, Machlom et Kiljom moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et il lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre père, de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers de ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier, et même si je disais j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attaché. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi, comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser. À repartir loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Et elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. « Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi ? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. » C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Comme vous voyez dans l'histoire, une famine atteint le peuple d'Israël. Et nous avons une famille qui habite Bethléem, qui veut quitter le pays d'Israël, car ils n'ont plus rien à se nourrir. Ils habitent à Bethléem qui littéralement signifie la maison du pain. Et quand nous avons cette histoire qui se déroule, nous sommes en pleine période des juges. Et si vous lisez le dernier verset du livre des juges, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce texte, il nous dit « À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Voilà l'état spirituel du peuple d'Israël à cette époque. Chacun faisait ce qui lui était bon. Il n'y avait pas d'autorité, pas de crainte de Dieu. J'ai réfléchi, je me dis, ne sommes-nous pas pour l'instant en cette époque? Nous avons, nous, Église du Seigneur, la parole de Dieu. Et malheureusement, cette parole, nous l'interprétons comme il nous semble bon. On la met un peu à notre sauce, comme ça nous arrange. N'est-il pas écrit, disait Satan. Et des fois, il nous dit, n'est-il pas écrit, mais tu sais, lis un peu la version moderne de la parole de Dieu. Chacun fait un peu sa religion à sa façon, sans trop chercher la volonté de Dieu, et ce, même dans l'Église. Ne nous voilons pas la face. Nous ne sommes pas meilleurs, malheureusement, que d'autres. Et cette famille quitte le pays afin de se rendre dans un autre pays. Et ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est qu'ils quittent le pays, ils quittent la maison du pain, sans même pas consulter Dieu quand ils prennent ces décisions. Il est vrai que Dieu, des fois, il a fait partir certaines personnes d'une région à l'autre. Mais c'est Dieu qui donnait cet ordre. Tandis que là, ils n'ont pas consulté Dieu et ils ont pris la décision de partir, femme et enfant. Allez, on y va, on part. Sans concertation avec l'Éternel. Ça ne va plus, alors je pars, tant pis. Pour les conséquences qui vont arriver, consultons-nous Dieu quand nous prenons des décisions dans notre vie. Imaginons-nous les conséquences que cela peut produire pour notre vie, pour notre famille. Est-ce que nous consultons Dieu dans tous les domaines de notre vie, où il y a certaines cases de notre vie où Dieu ne peut pas toucher? Ça, c'est pas ton affaire, c'est la mienne. On ne le dit pas comme ça, mais on le pense. On le pense tellement haut qu'on l'entend. Donc, prenons-nous la peine de demander à Dieu, de consulter Dieu quand on a des problèmes spirituels, quand on doit prendre des décisions sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan familial. Qu'importe. On a décidé que. Et on fonce, on se dirige vers Moab, ce pays qui a été maudit par l'Éternel, un pays qui est ennemi du peuple de Dieu. Moab signifie engendrer du Père. Et les habitants de Moab sont les descendants de Lot. Cet enfant que sa fille a eu est né d'une relation incestueuse avec son père. Et Dieu a maudit ce peuple. Ce n'est sûrement pas un endroit où Dieu voudrait conduire cette famille. Et je me suis posé cette question, et je nous la pose encore ce matin. Est-ce que nous nous dirigeons consciemment ou inconsciemment vers Moab ce matin? Est-ce que l'Église se dirige vers Moab ce matin? Consciemment ou inconsciemment. Quand nous nous retrouvons dans des situations difficiles, soit au niveau église, soit au niveau familial, soit au niveau personnel, recherchons-nous Dieu, regardons-nous vers Dieu, lui demandons-nous de nous guider dans les décisions que nous devons prendre. Malheureusement, cette famille n'a pas agi ainsi. Quand nous voyons la composition de cette famille, il y a 4 personnes. Nous avons le père qui a pris cette sage décision de quitter la maison du pain. Il s'appelle Élimélec. signifiant « Dieu est roi ». Très beau nom. Dieu est roi, viens ici. Ah, c'est joli hein, comme nom. Mais il porte mal son nom. Car si Dieu était son roi, n'aurait-il pas consulté son Dieu afin de discerner le plan pour sa famille ? Frères et sœurs, réalisons-nous en cet instant si Dieu est vraiment notre roi. Est-ce qu'on peut appeler « Dieu est mon roi » parce qu'il guide, il te guide, il me guide dans les décisions que je prends journellement ? Dieu est-il notre roi ? Question. Réponse, c'est pour vous. Hein. Sa femme, elle s'appelle Naomi, qui signifie « douceur ». C'est beau, une femme qui est douce. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui est douce. Était-elle trop soumise à son mari ? Je ne veux pas dire qu'elle est soumise, hein, attention. Ne pouvait-elle pas le dissuader de quitter la ville ? Toujours est-il que Naomi s'embarque avec son mari dans cette aventure, sans savoir vraiment où cela va les mener, avec quelles conséquences pour eux, pour elle, pour ses enfants, pour son mari. Je crois qu'il est important, dans tous les couples, comme spécialement dans les couples chrétiens, de dialoguer ensemble, de pouvoir se demander conseil, se donner conseil entre époux. Dieu n'a-t-il pas dit que la femme serait une aide pour l'homme. Hier, c'était la journée de la femme. Hein. J'espère que vous avez toutes fait la vaisselle, hein, parce que c'était votre jour. Le reste, c'est nous. Il semble que ce n'était pas vraiment le cas dans ce couple. Est-ce qu'il dialoguait ? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a foncé avec son mari. J'extrapole peut-être, mais qui sait ? Réfléchissons un peu comment nous vivons au sein de nos couples. Et ils ont deux enfants, je ne sais pas non plus dans quelles conditions ils les ont eus. Étaient-ils heureux d'avoir des enfants ? Quand on voit la signification de leur nom, Machlom signifie malade, malade au tableau. Il y a des drôles de noms, hein, vous savez, certains des noms de famille, j'avais des clients qui avaient des drôles de noms, je ne dirai pas lesquels, mais quand même, je n'aurais pas été fier de m'appeler comme ces gens s'appellent. Donc lui, il s'appelait malade. Pas très. Ma fille, elle n'aime pas le prénom que je lui ai donné, elle s'appelle Laurence. Je trouve que c'est beau, elle me dit toujours oh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce prénom-là ? Je ne peux pas lui demander à ce moment-là, mais enfin, voilà. Et l'autre, Kiljom signifie dépérissement. Oh là 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 là, c'est une famille de déprimés, hein, moi je ne sais pas. Malade, viens ici, dépérissement, fais attention. Ouf. Pauvre enfant. C'est vrai qu'il y a quelques incohérences par rapport à leur patronyme. Je pense que cette famille avait peut-être un problème avec sa relation avec Dieu, je n'en sais rien, mais bon, je le suppose. N'oublions pas dans quelle époque elle vivait. Une époque où chacun faisait ce qu'il voulait. On ne consultait pas l'Éternel. L'état spirituel du peuple d'Israël était lamentable à ce moment-là. Il y avait des juges qui faisaient remonter le niveau spirituel du peuple. Puis il y avait d'autres juges qui étaient un peu genre Samson, qui n'étaient pas des mieux. Donc vous voyez que l'état lamentable du peuple. Nous remarquons que le choix qu'ils ont fait n'est pas judicieux, car c'est ni bien ni par Dieu. Et une première conséquence de ce mauvais choix qu'ils ont fait en quittant la maison du pain, Naomi perd son mari. Elle reste seule, veuve, avec ses enfants. Seule sur la terre. N'avons-nous jamais vécu cette sensation bizarre, nous sentons seuls, dans le projet que nous avons entrepris ? Nous sommes seuls face à nos difficultés, seuls face aux engagements que nous avons pris, sans vraiment ressentir l'approbation de Dieu, parce que c'est ça le problème de cette famille. Et c'est ça peut-être le problème de nous, chrétiens. C'est de se sentir seul parce que Dieu n'a pas béni ce projet. Et personnellement, j'ai vécu ça. Si j'en pense, c'est parce que j'ai vécu ça dans ma vie. et dans ma famille. Et parfois, on se pose des questions. Pourquoi ça va mal? Pourquoi je me suis cassé la figure? Pourquoi ça ne tourne pas rond? Pourquoi tous ces problèmes viennent? Parce que Dieu n'a pas voulu te conduire là où tu te trouves. Et Dieu ne n'avait pas approuvé certaines décisions que j'ai faites. Et même ma fille qui était adolescente nous avait dit, ne faites pas ça, ça n'ira pas. Oh, je dis, toi l'ado, qu'est-ce que tu sais? Ben oui, mais parfois Dieu utilise, comme je dis souvent, s'il a même utilisé un âne, il peut utiliser des ados pour nous parler, pour nous dire, écoute, vous n'êtes pas en train de vous tromper. Mais on se croit tellement intelligent qu'on fonce. On va à Moab. Et ils s'enfoncent dans un plan sans Dieu. Au lieu de faire leur bagage, à ce moment-là, se dire et revenir au pays. Non, on s'installe. On s'installe dans l'erreur. Et les fils de Naomi prennent femme à Moab. Ils prennent des Moabites. L'une s'appelle Orpa, qui signifie opiniâtre. Et on pourrait dire têtu. Et nous le voyons dans le suite de l'histoire, que quand elle avait décidé une chose, on ne reviendra pas sur sa décision. Et l'autre prend pour femme Ruth, qui signifie compagne, amie. Malgré qu'elle ne soit pas juive, il y a un bon fond dans cette femme. Il y a quelque chose de bon en elle. Pourtant, Dieu avait interdit à son peuple tout mariage avec les femmes étrangères. Cette famille abandonne son pays car il y a une famine, ne compte pas sur Dieu afin qu'il pourvoie leurs besoins. Fallait-il vraiment partir? Y avait-il pas de solution à Bethléem pour s'en sortir? Ils quittent leur pays, ils s'allient avec les gens du pays par mariage. Deutéronome 23, versets 4 et 6, Dieu interdisait toute alliance avec Moab et Ammon, qui sont les deux descendants de Lot. Comme je vous dis, ce sont deux enfants incestueux. Et en plus, Moab n'était pas venu en aide à Israël à un moment donné. Et Moab avait aussi appelé le prophète Balaam afin de maudire Israël. Donc rien de bon à Moab. N'empêche, les deux fils de Naomi, malgré tous ces avertissements, prirent malgré cela ces femmes moabites pour épouse. Et remarquons que Dieu n'a pas béni ces mariages. Ils n'eurent pas d'enfants. Il n'y a eu pas de bénédiction parce qu'à ce moment-là, pas avoir d'enfants était signe de malédiction. Et le malheur poursuit Naomi. Maintenant, ses deux fils meurent. Catastrophe. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils et elle se retrouve à Moab avec ses belles filles, restée seule dans un pays étranger. Plus personne de sa famille ne l'entoure. Devons-nous dire que Dieu a maudit cette famille? Alors je dis de grâce, soyons prudents des fois, parce qu'on lance des trucs croyant être inspirés par Dieu. N'allons pas trop vite, frères et sœurs, en besogne, en jugement, quand nous voyons des personnes, et surtout parmi les chrétiens, vivre des moments difficiles. Parce que nous sommes là les premiers à dire « Ouh, mais !» Mais attendez, t'as déjà vu comment il vit? T'as vu ce qu'il fait? Est-ce qu'il lit sa Bible? Est-ce qu'il prie? Hein, tout ça. On extrapole, on ne sait bien rien. Non, ne jugeons pas et ne crions pas au jugement divin trop vite. Et nous n'avons pas le droit, déjà. Il est certain que toute désobéissance, frères et sœurs, a des conséquences pour chacun d'entre nous. Il est clair que si cette famille était restée au pays, elle n'aurait pas vécu des moments aussi durs, ça c'est clair. Mais elle avait des choix, il faut les assumer. Et si quelqu'un parmi nous s'égare, par malheur, n'invoquons pas la malédiction de Dieu sur ses frères et sœurs. Soyons sages. Soyons sages pour ces frères et sœurs qui se sont détournés des voies de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le chapitre 12 des Romains, verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Bénissez, nous avons à bénir ces gens par la prière, par des paroles. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Bien souvent, on fait le contraire, hein. On se réjouit de ceux qui pleurent. Pas vrai? Bien sûr. On est tous comme ça, des fois on était bien fait. Hein. Surtout quand on a des enfants et qu'on lui dit touche pas, là, ça brûle. Hein. Et puis, je t'avais dit, d'un petit sourire, là, je t'avais dit, hein, que c'était dans le brûle. Ben oui, on est comme ça. Et quand on crie à ses gardes, je t'avais dit, hein, ça brûle. Ben. Nous n'avons pas le droit, frères et sœurs, de porter un jugement quelconque. Nous sommes appelés à soutenir de telles personnes qui s'égarent, qui sont dans la souffrance. Bien sûr, notre devoir est de les remettre sur le bon chemin, de les soutenir. Notre responsabilité à nous, frères et sœurs, c'est de les soutenir, de les entourer de notre amour, de leur montrer que Dieu est amour et que Dieu veut s'approcher d'eux. Et nous, par notre amour, nous devons les porter, les aimer. Et Naomi apprend que Dieu a visité son peuple. Il y a du pain maintenant. A-t-elle de regrets? Bon, sûrement. Elle a tout perdu, il ne lui reste rien. Et elle prend une décision importante, une des meilleures décisions qu'elle ait jamais prise depuis quelque temps. Elle se lève afin de se remettre en marche. Quand on est dans cette même situation, parfois on est assis, voire couché. Et si on reste assis, si on reste couché, on s'enfonce, on rumine nos défaites, et nous tombons dans la dépression. Les bons chrétiens d'autrefois, on l'a entendu souvent, on disait qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Quel jugement! Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi je l'ai entendu souvent. Et à ce moment-là, j'adhérais. Puis le Seigneur m'a un peu éclairé et il me dit, écoute gars, c'est pas vrai. C'est vrai que c'est triste. Mais je suis là pour le relever, je suis là pour lui donner la joie. Et c'est vrai que des fois, les chrétiens peuvent tomber dans la dépression. Ou on s'enfonce, frères et sœurs, quand on est dans cette situation-là, ou alors on prend cette décision de se lever et de retourner au pays où il fait bon vivre. Là où Dieu bénit, là où il y a du pain, à la maison du pain. Nous avons besoin, frères et sœurs, de ce pain spirituel qui nous nourrit, qui nous fortifie. Nous ne pouvons pas vivre constamment dans la défaite. Nous devons réagir tout comme Naomi a entrepris de le faire. Il faut se lever. Il faut prendre cette décision-là pour se lever et aller vers la maison du Père. Et nous remarquons que ces deux belles filles se lèvent avec elle afin de l'accompagner dans son voyage. Mais une seule ira au bout du voyage avec elle. Orpa ne peut résister à l'appel de la vie de son pays, ses habitudes, ses dieux. Tout ça est trop attaché à elle et elle s'en retourne. Frères et sœurs, nous n'emmènerons pas toujours ceux que nous aimons avec nous. Il faut bien le reconnaître. Il nous faut marcher seul. Parfois, quelqu'un peut nous accompagner, mais et nous rejoindre. Mais bien souvent, nous sommes seuls. Combien d'entre nous aussi, nous avons une grande partie de notre famille qui est en dehors de la foi et nous en souffrons. Nous avons des époux, des épouses, des enfants, des parents, des frères, des sœurs, ne nous suivant pas vers le Sauveur. Et c'est un drame pour nous. Mais que voulez-vous? Toi, lève-toi. Comme Jésus dira à son disciple, toi, suis-moi, que t'importe, vas-y. Ton exemple peut apporter des nouvelles solutions à d'autres. Et Ruth s'attache à sa belle-mère, elle veut connaître une autre vie. Naomi lui a certainement parlé comment c'était bon, la vie avec Dieu. Et Ruth avait envie de vivre cela, elle, l'étrangère. Et nous ne n'étions pas étrangers. Des gens du dehors, comme dit la parole de Dieu. Et nous avons accompagné Naomi, peut-être, et nous sommes venus à Dieu. Avant que nous devenions enfants de Dieu, quelqu'un nous a entraînés. Quelqu'un nous a montré où se trouve la maison du pain. Et Naomi revient au pays. Elle est reconnue par ses amis. Il semble que les gens du pays soient contents de la revoir. Peut-être ça les a touchés. Ils ont été tristes de voir cette famille partir, connaître tant de malheurs. Peut-être que des gens priaient pour eux. Et les gens étaient heureux de voir revenir Naomi seule avec une étrangère. Je ne vois pas de critique de la part de la population. Frères et sœurs, nous n'avons pas à juger les chrétiens qui se sont arrêtés sur la route et qui reviennent parmi nous. Parfois, nous jetons des regards de flamme quand nous voyons quelqu'un que nous n'avons plus vu depuis 2-3 ans. Il est là, lui. Qu'est-ce qu'il vient à faire ici? Au lieu de dire, « Ah, je suis content, mon frère, que tu reviens au Seigneur. » Comment le regardons-nous, ceux qui reviennent? Quel est l'amour de Dieu qui nous unit, qui nous accompagne? Question importante, frères et sœurs. Bien sûr, ils ont pris une mauvaise décision quand ils se sont arrêtés sur la route. Mais nous devons les accueillir avec amour. N'importe qui, frères et sœurs, peut prendre des mauvaises décisions, même sur le plan spirituel, et se tromper, et s'arrêter sur la route, et aller vers Moab. Mais si Dieu leur parle, et qu'ils se remettent sur le bon chemin, à nous de leur ouvrir les bras et nos cœurs. L'expression de Canaan, comme on dit chez les chrétiens évangéliques, pourquoi les appeler les vilains rétrogrades? C'est quelque chose... Oh oui, c'est un chrétien rétrograde. Hein? Jean-Jacques, là. Oh là là, si tu savais. Et on dit rétrograde, c'est qualificatif. Mais on les pointe du doigt. Nul ne sait ce qui peut se passer dans notre vie spirituelle. Vous en avez un devant vous. Il aurait pu me citer comme chrétien rétrograde. Oui. J'ai vécu un long passage dans le désert, dans un désert spirituel. Et tout un temps, pendant plusieurs mois, je n'ai plus fréquenté l'église. Parce que j'étais parti sur Moab. On avait quitté la maison du pain. Oui. Je parle en connaissance de cause en vous parlant de cette histoire-là. Parce que je l'ai vécu. Et je sais ce que c'est cette longue marche vers Moab. Et à un moment donné, il faut prendre cette décision, il faut se lever, dire maintenant c'est fini, je reviens à la maison du pain. J'ai besoin de ce pain-là. Oui, nous sommes restés quelques mois sans nous rendre à l'église et puis Dieu nous a conduits autre part, où il y avait du pain. Et Dieu a commencé à nous parler, nous remettre sur les rails. À croire que le prédicateur vivait dans notre cuisine. Hein? Des mots là, c'est pas possible. Mais c'est Dieu qui se servait de cette personne pour pouvoir nous remettre sur les rails. Frères et sœurs, à nous de réagir quand nous nous trouvons dans cette situation-là. Et quand nous revoyons ces gens-là qui reviennent, réagissons comme Dieu fait quand il accueille cette brebis perdue. Un jour, je parlais avec un pasteur et je disais, mais un tel ne vient plus à l'église, il faudrait quand même le rechercher. J'étais sidéré par sa réponse. Il m'a dit, mon orgueil m'empêche d'aller les retrouver. Waouh! Un serviteur de Dieu qui dit ça. Et nous, avons-nous cette même pensée quand nous voyons des gens qui s'égarent? Et Naomi revient dans sa patrie. Et pourtant, à ce moment-là, je ne trouve pas, malgré qu'elle a pris des bonnes décisions, sa réaction n'est pas des plus positives. Quand elle s'adresse à ses amis, elle dit, verset 20, elle leur répondit, ne m'appelez plus Naomi, l'heureuse, appelez-moi Mara, l'affligée. Car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis parti d'ici comblé et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi appeler encore Naomi? quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction. Et personnellement, en réfléchissant sur ce texte, quand je l'ai médité pour vous, je ne peux pas partager son point de vue. Quand elle parle ainsi, je me reporte à mon expérience personnelle que j'ai vécue dans mon désir spirituel que j'ai traversé. Je ne peux pas accuser Dieu. C'est ma faute. Si je me suis retrouvé dans cette situation où je me suis trouvé, car je n'ai pas agi personnellement comme Dieu voulait que j'agisse. Personne n'a chassé Naomi de la maison du pain. Personne n'a chassé Naomi ni sa famille. Ils ont pris une mauvaise décision, celle qui a eu des conséquences désastreuses pour elle et pour sa famille. Que dit-elle ? Ne m'appelez plus Naomi, l'heureuse, appelez-moi Mara l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je dis, waouh ! Elle ne m'a pas regardé, celle-là. Ben oui ! Ils ont pris seuls la décision de quitter le pays, de se rendre dans le pays de Moab sans consulter Dieu, et maintenant c'est la faute de Dieu si elle est dans son malheur. Mais c'est ta faute, Seigneur. Tu n'avais qu'à me le dire, As-tu écouté? Est-ce que j'ai écouté? Est-ce que nous écoutons quand nous prenons un mauvais chemin? Oui, il est bon de revenir à Dieu quand nous avons fait fausse route. Mes frères et sœurs, il n'est pas juste d'accuser Dieu de nos malheurs. Ce n'est pas juste d'accuser Dieu et de lever le point vers Dieu, dire « si tu étais là ». Mais oui, il est là. Tu ne l'as pas écouté, je ne l'ai pas écouté. C'est notre désobéissance. Ils ont quitté la maison du pain, là où la bénédiction résidait, même si en ce moment-là, ils traversaient des difficultés. Et comme je dis, il est trop facile de démissionner, c'est un peu le cas des chrétiens quand tout va mal, et laisser les autres dans la gadoue. Ah, c'est facile d'abandonner tout. Et ce matin, je nous pose la question, parce que je l'ai quitté, la maison du pain. Avons-nous le désir de quitter la maison du pain parce que cela ne tourne pas comme nous le désirons? C'est la question que je nous pose, que je me suis posée. Réfléchissons à nos actes, car ils influencent notre vie future, frères et sœurs. Nous payons les conséquences de nos actes. Nous les payons, et je les payais chèrement, croyez bien. Et ensuite, accuser Dieu des malheurs qui nous arrivent. Ne m'appelez plus l'heureuse. Non, j'ai perdu la joie du salut. Trop de souffrances, trop de difficultés sur ma route, peut-elle dire. Appelez-moi l'affligée, car Dieu m'a trop affligée. Non, Naomi. Non, tu as abandonné la maison du pain, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même pour ça. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Si ce matin nous nous trouvons dans cette situation que cette famille s'est trouvée, réfléchissons bien. Pourquoi et comment nous sommes arrivés à ce résultat? Ça, il faut réfléchir. Mais maintenant, tu reviens, Naomi, vers Dieu. Tu comprends que c'est ici qu'est la bénédiction. Ce n'est pas en partant, en quittant la communion avec tes frères et sœurs, que tu auras la bénédiction. Non. Et je l'ai bien senti. Je l'ai bien vécu. On est malheureux, on n'a plus rien qui nous dit. On sent qu'on n'est pas bien dans sa peau, parce qu'on sait où est le pain. Et Naomi, de l'amertume, en a à revendre. La joie avait disparu suite à tout ce qu'elle a vécu. Mais ce n'est pas en accusant Dieu que ça va arranger les problèmes dans notre vie. Non, il est bon de revenir vers notre Dieu quand nous nous en sommes éloignés. Mais demeurons humbles en sa présence. Reconnaissons notre culpabilité. Reconnaissons nos fautes. Humilions-nous en demandant pardon afin de repartir du bon pied. Et ce chapitre se termine malgré tout sur une note positive. Et je vous conseille de lire le livre de Ruth, qui est une très belle histoire. On voit comment Dieu remet une famille sur les rails. On voit comment Dieu bénit. On voit comment Dieu bénit ceux qui reviennent à lui. La bénédiction va reposer sur cette famille, car ils ont pris malgré tout une bonne décision. Verset 22, c'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson d'orge. J'ai déjà prêché sur ce chapitre et ce petit bout-là me dit « au début de la moisson de l'orge ». Elles sont revenues à la maison du pain, à Bethléem, au moment de la bénédiction, au moment de la moisson. La farine va abonder. Et nous le verrons dans l'histoire, si vous le lisez. Car c'était le temps de la moisson. Je vous invite vraiment à se lire cette histoire et à la méditer. Cette aventure de la foi, quelque part, de ces deux femmes. Remarquons, frères et sœurs, quand nous rentrons dans le plan de Dieu, immanquablement, nous entrons dans la bénédiction qui l'accompagne. Tu es dans le plan de Dieu, je suis dans le plan de Dieu. Je suis béni parce que Dieu est là. Dieu me conduit, Dieu me rassure. Dieu a visité cette famille endeuillée, décimée. Dieu va les relever d'une façon extraordinaire et lui faire vivre une grande aventure, une aventure grandiose. La bénédiction, elle est extraordinaire sur cette famille. Une lignée de descendants prestigieux vont naître, dont le roi David, le roi Salomon, pour arriver jusqu'à Jésus par Joseph. N'est-ce pas extraordinaire? La bénédiction. Car un jour, Naomi a décidé de se lever, de sortir du marasme où elle était plongée. Et Ruth, cette étrangère, est rentrée dans le plan de Dieu, comme nous, nous entrons dans le plan de Dieu parce que nous étions étrangers. Si nous décidons d'entrer dans le plan de Dieu, la bénédiction est avec nous. Ce matin, frères et sœurs, je veux m'adresser à chacun de nous, moi y compris. Sommes-nous dans un moment difficile dans notre vie? Voulons-nous quitter la maison du pain parce que ça ne va pas? Ou l'avons-nous peut-être quitté? Peut-être que quelqu'un ici, je ne sais pas, n'est plus dans la maison du pain. Tu es déjà dans Moab, tu es ici assis, mais ton cœur est à Moab. Tu n'es plus dans le pays de la bénédiction. Tu es à Moab. Ne reste pas à Moab. Ne restons pas à Moab. Reviens. Reviens dans la maison du pain, parce que là, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction pour chacun d'entre nous si nous entrons dans le plan de Dieu. Et je veux conclure en disant, discernons la volonté de Dieu pour notre vie, frères et sœurs, non seulement pour le plan spirituel, mais dans tous les domaines de notre vie, car tout est lié. Parce que quand tu as une vie catastrophique, il n'y a rien qui tourne sur le plan spirituel, matériel, financier, là, tu te poses des questions et tu dis, Dieu m'abandonne. Donc, les décisions que nous prenons, n'importe lesquelles, soumettons-les à Dieu. Car en prenant de mauvaises décisions, en faisant de mauvais choix, nous nous mettons en danger. Et précipitons notre vie spirituelle dans l'amertume, dans le doute. Et on s'éloigne de Dieu. Frères et sœurs, si nous avons quitté la maison du pain, revenons. Revenons à la maison. Il fait bon à la maison. On aime bien rentrer chez soi. Hein, quand on part là, même quand on part en vacances, on est quand même heureux de rentrer chez soi. Alors, reviens. Revenons. Jésus nous attend. Il ne nous jettera jamais dehors. Il nous attend. Il y a du pain en abondance. Il y a du pain en abondance, comme disait le fils prodigue. Il y avait du pain en abondance chez moi, mais j'ai quitté. Alors, la bénédiction et la vie abondante se trouvent dans la maison du pain. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous connais ce matin, tu connais nos vies. Je ne sais pas où mes frères et sœurs en sont, mais moi je sais où je suis. Et je sais d'où je reviens aussi. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous accueilles, tu nous fais du bien. Ah, tu nous donnes du pain en abondance. Et Seigneur, ce matin, tu veux donner du pain à tes enfants qui sont dans la disette. Tu veux envoyer la bénédiction sur ton Église et sur nos vies. Seigneur notre Dieu, nous voulons demeurer dans ta volonté, être là où tu veux, à la maison du pain, dans le pays que tu veux que nous habitions. Seigneur notre Dieu, bénis ton peuple ce matin. Restaure ceux qui ont besoin de la bénédiction de Dieu. Amen.